Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Les mères indignes,
les superficielles,
les castratrices,
les traînées,
les repoussoirs,
les hystériques,
les coincées,
les pestes,
les carriéristes,
les psychopathes,
les traîtresses,
les mauvaises victimes,
les revêches.
Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Anaïs Bordage et Marie Telling à l'occasion de la parution de leur ouvrage « Petit éloge des anti-héroïnes de série » aux éditions Les Pérégrines. C'est parti. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Avant de rentrer dans le vif du sujet des anti-héroïnes, quels sont ces fameux podcasts que vous faites ensemble et comment vous en êtes amenée à écrire un livre, en fait, sur les séries télévisées? Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup séries maintenant, mais à la base, c'était les séries télévisées.
On a deux podcasts, un qui s'appelle Peak TV, les deux sont produits par Slate. Un qui s'appelle Peak TV, qui parle de l'actualité des séries, mais aussi de certaines séries cultes, avec un épisode sur une série à chaque fois. Et on en a un autre qui s'appelle Ami, qui a commencé à l'origine, et c'est d'où le nom aussi, c'est parce que moi j'étais fan de Friends et Anaïs ne l'avait jamais vu, et donc elle a découvert le podcast avec moi, et on a documenté ça, et après on a inversé les rôles avec Twin Peaks, puisqu'elle était fan et je l'avais jamais vu. Et maintenant on fait des films d'horreur et romantique en alternant les rôles à chaque fois. Et pour le livre, bah, peut-être que tu veux raconter.
Ouais, mais en fait c'est grâce au podcast que le livre... A vu le jour, puisque les éditrices, notamment une personne chez Les Pérégrines, aimait nos podcasts et donc nous a contactés pour nous dire que voilà, elles cherchaient à avoir plus de livres féministes et elles nous ont proposé d'écrire un petit éloge des héroïnes de séries télé. Et ensuite, en y réfléchissant un petit peu, on a décidé de switcher et de faire les anti-héroïnes et donc bah, c'est grâce à leur écoute du podcast que ce projet est né.
En tout cas, vous commencez votre livre dans l'introduction en parlant des séries télévisées et donc de ce fameux engouement en fait qu'on connaît depuis 10 ans qui s'appelle en fait Peak TV, c'est ça, tout comme le nom de votre podcast. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire des séries télé?
Sur la Peak TV, donc c'est un terme qui a été lancé par Joe Landgraf, c'est ça, je ne me trompe pas.
John
Landgraf, qui dirigeait la chaîne FX aux États-Unis à l'époque et qui parlait juste de l'explosion de la production de séries, puisqu'il y en avait de plus en plus et il prédisait que, il me semble que c'était d'ici 2016, donc il a dit ça en 2015, d'ici 2016, on aura atteint le pic de production de séries télé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on était très loin du pic et qu'il allait en avoir de plus en plus, de plus en plus. Et donc, il y en avait tellement qu'on a voulu commencer à traiter le sujet pour aider les gens à faire le tri aussi. Mais je pense que je dirais que ça fait bien 15 ans qu'il y a quand même un vrai engouement autour des séries télé. Après, nos parents regardaient aussi des séries télé, ils appelaient ça des feuilletons, mais voilà, même quand ils étaient enfants, y avait déjà des séries télé, donc c'est une tradition qui remonte à très très loin. Mais je pense que la série télé moderne telle qu'on la conçoit maintenant, oui, ça fait bien 10-15 ans qu'elle est en développement.
Oui, je dirais même, peut-être un peu plus, c'est-à-dire ce qui s'est développé ces dernières années, et sur les 15 dernières années, c'est que, même 20 dernières années, autour, je mettrais autour des Sopranos, en fait, qui arrivent en 2000, enfin 99-2000, c'est un peu le tournant où d'un coup, et après, bon, ça s'est installé sur plusieurs années, les Sopranos, c'était un premier exemple, et il a fallu plusieurs années pour que ça prenne vraiment... la télé avant était un médium qui était totalement méprisé, c'était un médium de femmes, c'était un médium de domestique sur la télé à l'intérieur pour les femmes au foyer, alors que le cinéma était considéré comme un art. Et en fait, au moment de la télé prestige sur HBO, quand ça a commencé avec les Sopranos, d'un coup, des artistes, enfin des créateurs ont pu commencer à... mettre en place leur vision dans leur série, alors qu'avant c'était quand même un médium qui était très commercial, même s'il y avait justement, nous on est des grandes fans de Buffy, de The X-Files ou de séries comme ça, qui pour le coup avaient des contraintes économiques et qui étaient à la télé américaine et qui ont peut-être été méprisées, surtout dans le cas de Buffy, en plus Buffy contre les vampires, le titre, tout ça. Mais qui était brillante et très bien écrite. Mais c'est vrai qu'avec les séries prestige d'HBO, là, d'un coup, et surtout avec des séries comme True Detective, je pense qu'il y a eu un gros tournant à ce moment-là aussi.
Ouais.
Où là, d'un coup, les séries ont été mieux considérées par la critique et les stars se sont tournées hollywoodiennes et les cinéastes se sont tournés vers les séries. Il y en a eu de plus en plus de fait aussi parce qu'il y a une plus grande liberté créative. Et je pense, mais ça tu connais mieux que moi, au niveau du cinéma aussi, on arrivait à un moment où il y avait soit des méga productions Marvel, des choses comme ça, soit des toutes petites productions, et il n'y avait plus trop les productions un peu intermédiaires.
Bah en fait, les films à moyen budget ont quasiment disparu au cinéma, et donc il y a énormément de réalisateurs, comme Steven Soderbergh, qui annonce sa retraite tous les 5 ans, il dit qu'il va arrêter de faire des films, finalement il continue, mais maintenant il les fait pour des plateformes, parce qu'il ne peut plus faire ses films avec des boîtes de production traditionnelles. Et d'ailleurs, quand il a annoncé sa retraite, il a fait la série The Nick. Il s'est tourné vers la télé. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de cinéastes et d'acteurs et d'actrices du cinéma qui ont été ignorés dans cette industrie-là, qui vont vers les séries parce qu'il y a eu une grande ouverture ces 15-10 dernières années du côté des séries. Mais maintenant, il y a des embouteillages, en fait. Parce que justement, il y a tellement de créations, tellement de demandes. On voit aussi que les salles de cinéma sont moins fréquentées, que les plateformes ont révolutionné la manière dont on consomme, entre guillemets, la culture. Et donc, bah, y a une très très forte demande pour ce qu'on peut regarder sur notre canapé, ce qu'on peut binger, puisque Netflix a aussi lancé la mode du binge. Et donc, bah oui, en fait, maintenant, il y a énormément de séries et un peu moins de films, on va dire, qui ont des contenus adultes et en même temps très divertissants au cinéma. C'est-à-dire que maintenant, on a soit le film d'art et d'essai, soit le gros blockbuster plutôt dirigé vers un public jeune et pas toujours forcément intelligent, même s'il y en a qui sont très bien faits. Et donc, les séries occupent cet espace-là.
Mais c'est marrant parce qu'on en parlait plus tôt nous-mêmes aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on arrive à sur la fin, enfin il y a même eu des articles là-dessus, hein, sur la fin de la Pic TV, mais même créativement, avec la multiplication des plateformes de streaming, il y a une telle compétition qu'on est plus dans une logique commerciale avec aussi une logique d'algorithme beaucoup qui fait que... au niveau de la créativité en ce moment des séries, il y a quand même beaucoup moins de séries qui nous enthousiasment, comme c'était le cas il y a peut-être 5-6 ans, avec des séries comme The Leftovers ou The Americans, qui étaient à la télé en même temps. Et là, on arrive dans un moment où, bah là, on vient de voir le premier épisode de Succession de la saison 4, il est très bien. Mais on a l'impression
mais
que
c'est
ça
la
s'essouffle,
seule bonne série.
Ouais, voilà. On a l'impression que ça commence à s'essouffler un peu. Du coup, c'est un peu de savoir ce qui va arriver après va être intéressant, quoi.
Bah, en fait, il n'y a jamais eu autant de séries télé produites et en même temps, il n'y a jamais eu aussi peu de risques pris dans la création. Et il y a juste une tentative de reproduction ad nauseam de formules. Et des tentatives aussi très cyniques de capitaliser sur le concept de représentation, et c'est aussi évidemment, ça fait partie de ce qu'on raconte dans le livre, sauf que comme c'est fait avec cynisme, je pense que les téléspectateurs le ressentent aussi, qu'en fait il n'y a pas du tout de volonté de raconter des histoires vraiment différentes, mais juste de capitaliser sur un public qui n'a pas encore été forcément chopé par certaines plateformes.
Au final, il y a beaucoup de vos références qui datent aussi de ces périodes où on pouvait juste de manière assez random tomber sur des épisodes, enfin Friends, Sex and the City, c'était des séries comme ça où, enfin, si on avait de la chance, ça se suivait, sinon ben, on remontait dans le temps, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on appréhendait le principe de la série complètement différemment, j'ai l'impression, parce qu'on ne faisait pas forcément vraiment le fil au fur et à mesure de leurs histoires, on prenait ce qu'on nous donnait, on va dire, que maintenant, vraiment, on peut, en un week-end, une journée, binger, donc comme tu disais, toute une série entière et avoir vraiment l'histoire globale. Je trouve que cette impression-là, enfin cette expérience de série, elle est un peu... elle paraît désuète. Je me dis qu'il y a beaucoup de générations enfin, les nouvelles générations, j'ai l'impression d'être très vieille, mais je veux dire, même à 36 ans, en fait, on a vécu une autre façon de découvrir les séries télé, en fait. Et d'ailleurs, qui ne sont plus des séries télé, qui sont des séries tout court.
Oui, bah en fait, il y a deux choses qui ont changé. Il y a la manière dont on consomme les séries, effectivement, puisqu'elles nous viennent maintenant avec des saisons en entier. Et donc, on binge. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avant avec des vieilles séries qu'on n'avait pas forcément vues au moment de leur diffusion. Et puis, on achetait les DVD et on regardait tout en un week-end. Moi, j'ai fait ça avec Newport Beach et 24 heures chrono.
Les DVD, j'ai oublié voilà, les DVD.
Voilà, c'est ça. Donc, on faisait déjà du binge-watching. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu quand même le mode de consommation principale, je pense, pour beaucoup de gens. Donc ça, ça a changé. Mais il y a aussi l'écriture, en fait, qui a changé et qui reflète ça. C'est-à-dire que on parle beaucoup de format épisodique et de sérialisation. Donc c'est vrai qu'avant, justement, comme on passait devant la télé, on tombait peut-être sur l'épisode 4 de la saison 8. Et moi, j'ai découvert des séries comme ça. J'ai attrapé Alias en regardant la saison 2. Je savais pas ce qui s'était passé avant, mais j'ai accroché. Les séries étaient écrites pour ça aussi. Donc on pouvait commencer un épisode, ne pas du tout savoir ce qui s'était passé avant, mais avoir quand même un arc narratif complet en 40 minutes. Et donc, on décidait à la fin, il y avait un cliffhanger, et on décidait si on voulait voir la suite. Et après, peut-être qu'on rattrapait ce qui avait déjà été diffusé. Alors que maintenant, c'est vrai que c'est très difficile. Enfin, on peut pas prendre Breaking Bad ou Better Call Saul à l'épisode 4 de la saison 3. On va pas comprendre, en fait, parce que les séries sont plus écrites pareil. Et donc, le format épisodique est de plus en plus délaissé et il y a une sérialisation extrême qui fait que les séries sont vraiment conçues pour être vues du premier au dernier épisode en 24 heures ou 48 heures. Donc, la manière dont c'est écrit est totalement différente.
Sauf Grey's Anatomy, où là, pour le coup...
C'est ça, bah parce que c'est une série qui date de notre époque, justement.
Oui, puis il y a encore des sitcoms comme Brooklyn Nine-Nine, c'est plus la télé, mais par exemple, Abbott Elementary ou des sitcoms comme ça, les formats sitcoms sont quand même plus faciles à snacker, même s'il y a toujours des trames qui suivent. Mais c'est vrai que, bah, surtout dans les drames, enfin dans les séries dramatiques, c'est vrai qu'il y a une trame qui doit être suivie, quoi.
Ouais. Et puis, il y a plus de mini-séries, ce qui correspond aussi à ce mode de consommation. C'est-à-dire que tout le monde veut maintenant avoir juste 6 épisodes à regarder pour le week-end. Donc, il y a beaucoup plus de mini-séries que de séries qui durent maintenant 5 ou 6 saisons. C'est de plus en plus rare, en fait. Mmh. Et il y a aussi des saisons maintenant de 7, 8, 9 épisodes, contrairement aux 24 traditionnels qui existent encore, effectivement, pour ces séries-là, comme Grey's Anatomy, qui sont les séries traditionnelles. Mais sur tout ce qui est chaîne de télé prestige, on en a de moins en moins.
Le cinéma, là, quand on regarde sur les programmes et qu'on n'a pas forcément 3 heures devant soi, ça devient compliqué, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on est passé de 1h30 à 2 heures.
Ah oui, oui, les films, s'il y a des films à rallonge, ça c'est sûr.
Il y en a. Après, je pense qu'il y a aussi, justement, on est tellement habitué à voir beaucoup plus de séries qu'avant et les séries sont tellement devenues l'objet culturel principal pour beaucoup de gens qu'il y a plus un blocage, je pense, psychologique parce qu'au final, on va passer 3 heures devant la même série. Mmh. Mais le fait qu'elle soit découpée en épisodes va moins nous bloquer que de se dire qu'on peut aller passer 3 heures ou même 2h20 devant un film. Mais en fait, si vous comptez l'expérience de juste décider ce que vous allez regarder...
Ça, déjà, c'est 1h30 à peu près.
Voilà, choisir ce que vous allez manger pendant que vous regardez la série, ensuite lancer l'épisode, faire pause pour aller aux toilettes, revenir, regarder un épisode ensuite, etc. Ça fait la même longueur qu'un film.
Oui, mais il y a une sensation de confort parce que t'es chez toi, quoi.
Oui, bien sûr, c'est ça. Mais du coup, voilà, je pense que c'est plus là que ça se joue aussi. C'est qu'on a l'habitude d'avoir des découpages en épisodes maintenant. Mmh. De la même manière qu'on écoute maintenant des morceaux sur Spotify un peu de manière désordonnée et qu'on n'écoute plus un album en entier. Enfin, c'est juste nos modes de consommation.
Oui, et puis même, je pense qu'on a une capacité d'attention qui a largement diminué. Enfin, c'est mon cas. Hein. et donc, on a plus tendance à regarder nos téléphones pendant qu'on regarde une série ou des choses comme ça. Et aussi, le format... des séries où à la fin de chaque épisode il y a quelque chose qui nous un cliffhanger en général du coup qui réenclenche notre attention et qui demande de nous qu'on relance un autre épisode, enfin parfois ça se relance automatiquement, mais c'est vrai qu'on n'a pas ça dans un film, on peut en avoir par
oui,
moment.
Après, enfin, oui, la structure d'un scénario est aussi faite en actes pour justement relancer à chaque fois.
Oui, oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose où c'est tellement plus évident dans les séries que ça vient satisfaire quelque chose où on sent qu'on a... On a du mal, enfin moi je le ressens, par exemple regarder un film chez moi c'est très difficile, regarder une série c'est beaucoup plus facile, alors que après c'est pour ça que je vais au cinéma pour regarder des films, parce que ça me force à être dans le noir, sans téléphone et enfermé. Mais sinon, quand je suis chez moi, je vais mettre pause 15 fois, alors qu'une série je la consomme beaucoup plus facilement, et je pense qu'il y a un truc à ce niveau-là quand même.
Dans les séries, c'est quand même... tous les scénaristes n'ont pas ce talent-là, ou en tout cas la volonté, j'imagine. Y a des séries, elles sont vraiment spécialistes de vraiment nous laisser sur est-il vivant, est-elle vivante, des choses vraiment où on se dit, mais ils pourraient tous passer l'épisode suivant.
Quoi. Oui, après, je pense que c'est aussi une recette un peu facile, parfois, dans laquelle tombent certaines séries où... Je pense que...
Bah, et justement, moi, ça, on l'a de moins en moins.
Oui, enfin, non, mais oui. Ouais. Mais après, nos séries préférées font pas forcément ça. Enfin, à la fin de Mad Men, de chaque épisode de Mad Men, on se demande pas à qui, à part quand il y en a un qui se fait couper le pied à la tondeuse, mais ouais, c'est ça. C'est même pas à la fin de l'épisode, donc... Mais oui. Grosse ambiance dehors.
Ouais.
C'est bien.
Donc ici, vous parlez en effet de séries, mais surtout... d'anti-héroïne de série. Ce principe d'anti-héroïne, il est évidemment intéressant si on le met en fait en comparaison avec les héroïnes, tout simplement. Et comme vous le disiez un petit peu précédemment sur ce principe des représentations, alors tu disais Anaïs qu'il y avait aussi quelque chose de très limite marketing en fait à aller cocher les bonnes cases et moi je trouvais que on le voyait extrêmement fort sur la nouvelle saison de Sex and the City and just like that
où ils ont coché toutes les cases
mais
possibles,
c'est là
quoi.
En fait où moi j'ai compris et donc après le regard est habitué et se dit ah ben voilà ce personnage il est arrivé ah ben oui et puis il y a celui-là qui arrive etc. Ici dans votre principe ça va rester autour des femmes et donc des clichés, des stéréotypes de genre qui accompagnent en fait cette construction sociale. Est-ce que vous pourriez définir de ce fait comment vous vous êtes dit en fait c'est des anti-héroïnes qu'on va sélectionner?
Moi, je voulais vraiment parler de Cordelia. On voulait vraiment parler d'Elizabeth Jennings, Cordelia de Buffy. On voulait vraiment parler aussi du personnage joué par Carrie Coon dans The Leftovers. Il y avait beaucoup de personnages comme ça. Et en fait, celle qui nous enthousiasmait le plus, c'était vraiment celle qui était compliquée et un petit peu fucked up. On les aimait bien pour ça, justement. Cordelia, c'est une peste, elle nous fait rire. Et on s'est rendu compte qu'écrire sur Buffy une nouvelle fois, on adore Buffy, mais il y avait quelque chose d'assez lassant. Et justement, le cliché de la meuf badass, on trouvait ça un peu, il est un peu éculé maintenant, et surtout c'est devenu un cliché dans la pop culture et une représentation un peu facile des femmes pour des séries qui veulent se présenter comme féministes mais qui essaient pas de chercher plus loin. Et je pense à La Servante Écarlate, on en parle assez souvent dans le podcast parce qu'on a un peu eu cette réaction, on a toutes les deux lu le livre. Et je pense qu'on a toutes les deux aimé aussi parce que le personnage principal était une anti-héroïne, parce que elle subit beaucoup l'action et son seul moyen de rébellion au final, c'est d'avoir une liaison avec le chauffeur. Alors que la série a transformé ça en c'est une leader de la résistance hyper badass qui regarde avec des flammes dans les yeux la caméra à chaque fois et qui va renverser tout le... C'était pas le propos du livre pour moi.
Dans le livre, elle est lâche en fait, elle a peur, elle a pas envie.
Mais c'est une femme normale en fait qui se retrouve dans une situation horrible et
elle se dit je fais pas de vagues, je baisse les yeux et puis j'espère que ça s'arrange. Quoi.
Et elle essaie de trouver des petites rébellions au quotidien et on trouvait ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que justement ces personnages un peu faciles d'héroïnes. Un peu lisse parfois,
rien,
et j'inclus pas Buffy dedans parce que c'était une révolution en elle-même et elle était assez complexe comme personnage, mais ça a mené à plein de personnages un peu faciles. Et donc, on s'est rendu compte que pour nous, on voulait vraiment plus explorer les femmes un peu difficiles et parfois même difficiles à aimer, même si on les aime, et d'essayer d'analyser pourquoi. Et surtout, il y avait aussi tout l'aspect du anti-héros, dont on parle énormément quand même dans la pop culture depuis des années, et surtout dans les séries, avec Don Draper, Tony Soprano, Walter White. Et ce personnage masculin qui est plein de défauts, souvent des défauts qui sont au final très avantageux pour sa masculinité, hein, mais des défauts qu'on admire carrément, alors que ce qu'on trouve intéressant dans les anti-héroïnes, et on trouvait qu'on n'en avait pas beaucoup parlé justement, c'est qu'en général, leurs défauts sont des défauts qui sont des offenses à la féminité traditionnelle. Alors que Tony Soprano, c'est l'homme masculin qui est criminel, mais en fait, dans l'idéal, l'imaginaire collectif, c'est un idéal de masculinité, quoi. Alors que les femmes dont on parle dans le livre sont plus...
Il y en a qui sont très peu populaires, en fait. Skyler White de Breaking Bad, Anna Horvath de Girls. Justement, leurs défauts les rendent très crispantes pour une partie du public. Alors que nous, c'est ça qu'on aime chez elles, parce que ça les rend très subversives. Et que justement, on va plus se reconnaître dans des personnages féminins qui ont énormément de défauts, comme nous, qui font des bêtises, qui ne sont pas parfaites, qui n'arrivent pas à répondre aux injonctions ou qui veulent détourner les injonctions qu'elles subissent en permanence. On trouve ça beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'on voit en même temps qu'elles ne sont pas reçues de la même manière que les Walter White et compagnie. Skyler White a reçu des menaces de mort. Les gens lui disaient que c'était une connasse à des conférences de presse, tout simplement parce qu'elle jouait face à Walter White, quelqu'un qui lui demande juste de peut-être ne pas fabriquer de la drogue, de pas se mettre en danger, de pas mettre sa famille en danger, qu'elle ne tolère pas le fait qu'il lui ait menti, qu'il se comporte de manière toxique avec elle. Et en fait, son personnage féminin est détesté. Alors qu'en face, oui, il y a quelqu'un qui est dealer, qui va se montrer violent, toxique, qui va tuer des gens, mais c'est un héros pour plein de gens. Il y a des gens qui se font tatouer Walter White sur le bras. Donc ça veut dire ce que ça veut dire sur les attentes qu'on a envers les femmes et sur la tolérance qu'on a envers les hommes, même très imparfaits.
Même si je ne les connais pas toutes, il y en a quand même un petit pourcentage où je n'avais vraiment aucune idée de qui on parlait. Il y en avait quand même beaucoup dont je me rappelais. Et je me suis dit, parce que même si je regarde des séries, etc., j'ai pas non plus une mémoire incroyable, mais pourtant, elles m'ont marquée. Et je me dis, en fait, au final, est-ce qu'on ne se souvient pas mieux des anti-héroïnes que des héroïnes ? Après, quand tu prends l'exemple de Buffy, c'est sûr que là, ça paraît un peu la masterpiece, oui. Voilà.
Mais pour autant, je pense que c'est l'exception qui confirme la règle souvent. Et puis, à l'époque, il y avait aussi Scully. Enfin, il y a eu pas mal de femmes à ce moment-là. Mais je pense que oui, c'est pas forcément les anti-héroïnes. Elles sont plus divertissantes, en fait. C'est ça. Et ouais, Buffy est divertissante, mais
Il y a certaines séries, par exemple Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie ou Kimberly Shaw, jouée par Marcia Cross. Il y a une scène dont les gens se souviennent de Melrose Place, c'est quand elle arrache sa perruque et qu'elle a une énorme cicatrice sur le visage et que ça y est, elle commence à devenir un peu la méchante de la série. Donc oui, parce qu'elles sont plus divertissantes, elles sont moins lisses que d'autres personnages. Et donc, on va s'en souvenir beaucoup plus. Et je pense même que, par exemple, on a parlé un peu de la dualité entre Blair et Serena dans Gossip Girl. Je pense que Blair est devenue une icône de la pop culture, beaucoup plus que Serena. Alors que Serena, évidemment, on l'a trouvée magnifique. Elle a été tout le temps bien coiffée alors qu'elle ne faisait pas d'efforts. Et voilà, et elle était vachement plus douce et gentille. Mais au final, Blair, qui est une peste...
Elle est plus fun.
Voilà, elle est plus fun, et que ce soit ses tenues, ses répliques, enfin tout ça, c'est devenu beaucoup plus culte, je pense, auprès du public. Parce que oui, en fait, les vilaines, on les adore.
Après, c'est vrai que, comme tu dis ça, ça me fait penser, est-ce que spontanément, en fait, à chaque fois, il y a un duo, donc la méchante et la gentille
Dans les teen shows, oui.
Beaucoup. La brune et la blonde.
Ouais, voilà, la brune et la blonde, ouais, toujours. Bah, dans les teen shows, oui, et d'ailleurs, on parle de Faith, qui était l'anti-Buffy dans Buffy.
Ouais, ou même Cordelia, qui est l'anti-Buffy aussi.
Exactement, donc oui, ça, on le voit encore aujourd'hui.
Après, dans Mad Men, parce que dans vos
exemples...
Oui,
il y a une blonde très méchante.
Il y a une blonde très méchante, une brune, c'est Peggy, elle est brune.
Oui, elle est châtain.
Elle est châtain, ouais,
voilà. Et le nom m'échappe, qui est rousse.
Joan.
Joan. Il y a eu une innovation sur un trio de représentations qui est hyper intéressant. Pour le coup, même on va retrouver la série dans deux catégories de votre livre. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai fait l'intégrale de Mad Men pendant un déconfinement. C'était ma prouesse.
Excellente décision.
Mais ce qui fait que je l'ai plutôt bien en tête. Et c'est vrai que le personnage de Betty Draper... il est quand même incroyable. En fait, quand on y repense, de m'y replonger, et c'est ça qui est vraiment agréable dans votre livre, c'est qu'une fois qu'on a bien vu une série, en fait, on peut prendre plaisir à repenser au personnage. Avant d'aller plus loin dans les spécificités de ces anti-héroïnes, je me suis dit que vous pourriez nous lire, en ping-pong, s'il vous plaît, vos catégories.
Ok. Les mères indignes.
Les superficielles.
Les castratrices.
Les traînées.
Les repoussoirs.
Les hystériques.
Les coincées.
Les pestes.
Les carriéristes.
Les psychopathes.
Les traîtresses.
Les mauvaises victimes.
Les revêches.
Ça, c'est un fameux programme. C'est de se dire que là, on a la fine fleur de des séries. Ces titres, ces catégories... Parce que bon, ça paraît peut-être un peu une question très pointue, mais en même temps, il a fallu que vous fassiez quoi ? Une liste de toutes vos anti-héroïnes et que vous fassiez un peu un tableau Excel en disant bon, elle va plutôt là, elle va un petit peu là.
C'était plus des feuilles avec plein de flèches. Oui, il y a certaines catégories qui étaient assez évidentes. Hein. Les mères indignes, par exemple, c'est tellement un cliché de la pop culture que c'était évident qu'on voulait la faire. Il y a eu d'autres catégories qui étaient un peu plus compliquées. Je pense Les Revêches, c'est celle, on en parle souvent, mais c'était un peu nos préférés parce qu'il y a Elizabeth Jennings dedans, il y a Nora Durst. Il y a aussi Camille Pricker de Sharp Objects. Et en fait, c'était surtout Elizabeth et Nora où on avait un peu du mal à les situer. On savait qu'on voulait absolument parler d'elles, c'était les deux auxquelles on avait pensé au tout début. Mais on avait du mal à savoir où les mettre, enfin comment les définir en fait, parce qu'elles sont assez complexes et aussi elles ont beaucoup de défauts. Et donc c'était un peu de se dire où est-ce qu'on peut les mettre dans le livre, parce que par exemple Elisabeth, on aurait pu la mettre dans les Mères indignes.
Ou les psychopathes,
oui. Mais donc on avait des arbitrages un peu comme ça au final sur quel nom donner exactement. Les repoussoirs, c'est pareil, c'est-à-dire que c'était un peu on voulait pas mettre les moches, parce oui. qu'elles sont, on voulait pas faire un jugement sur le physique de l'actrice, parce qu'en plus on ne trouve pas ces actrices moches du tout, et en plus pour certaines c'est même pas qu'elles sont repoussantes physiquement, c'est leur attitude qui est repoussante, et c'est un peu, on pensait plus au terme anglais man repeller, donc un repoussoir à homme quoi, et donc c'est comme ça qu'on y est venu. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chapitres où on a pas mal réfléchi, il y en a d'autres où c'était évident, mais il y en a certains où on a essayé un peu de voir ce qui fonctionnait le mieux au niveau des termes, et c'est vrai que les termes sont un peu
choquant,
voilà, c'est des clichés, mais c'est aussi le principe, c'est-à-dire qu'on voulait montrer comment ces personnages correspondent à des clichés sexistes et en même temps les déconstruisent aussi, quoi.
Et que c'est des termes qu'on emploie que pour parler des femmes, en fait. Si on faisait un livre sur les anti-héros, on n'aurait pas de traînée, on n'aurait pas de...
Sauf les psychopathes, quand même.
Voilà, c'est ça. Mais la plupart, correspondent à des insultes sexistes qui en disent long sur les injonctions qu'on doit affronter au quotidien.
Est-ce que lorsque vous découvrez des séries, systématiquement, en fait, vous avez une sorte de tri, enfin, vous vous dites ah, là, elle va plutôt correspondre à cette catégorie-là, ou parce que j'ai l'impression, au final, parce que vous avez un angle d'attaque quand même assez large avec des séries plus anciennes, des choses beaucoup plus récentes, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, on pourrait se dire chaque personnage pourrait être identifié à son stéréotype, en fait. Si vous parlez notamment, par exemple, de The L Word, ou je parlais de Grey's Anatomy ou de Mad Men, toutes les femmes sont stéréotypées.
Il y a des personnages féminins, Nelly Olson ou Kimberly, par exemple, que tu citais tout à l'heure, c'est des personnages qui correspondent et alimentent un cliché, très clairement. On n'essaie pas de le déconstruire, quoi. C'est la petite peste avec les boucles blondes qui va être horrible, ou des choses comme ça. Il y a d'autres personnages, ou même Jen, je pense à Jen dans Dawson, qu'on a mis dans les traînées, entre guillemets, mais qui, elle, était slut-shamée pendant toute la série, parce qu'elle a perdu sa virginité très tôt, parce qu'elle avait des rapports sexuels. C'est un truc qu'on lui remet dans la tronche constamment, et qu'elle va même subir jusqu'à la fin, et être victime un peu d'un espèce de karma que la série lui a imposé. Et en même temps, il y a d'autres personnages, et c'est ça qu'on voulait montrer aussi, qui ont été écrites pour déconstruire certains clichés. Par exemple, pour moi, Elizabeth Jennings, c'est un personnage qui correspond à ça, à Camille Pricker aussi, de Sharp Objects. C'est-à-dire que c'est un personnage où, très clairement, les scénaristes savaient qu'ils touchaient à certains stéréotypes sur les femmes et qu'ils voulaient déconstruire certains clichés sexistes.
Ou Arabella dans I May Destroy You aussi.
Oui, voilà. Ouais.
Je pense que la conclusion qu'on a atteint à la fin du livre, et je crois que c'est un peu comme ça qu'on l'a écrit aussi, c'est que aujourd'hui, c'est quand même plus difficile de catégoriser les personnages féminins qu'on voit à l'heure actuelle à la télé que celles qu'on a mis dans le livre. Et ça veut dire qu'il y a quand même un progrès. Et c'est pour ça qu'à la base, Nora Durst ou Elizabeth, on avait plus de mal à les catégoriser. C'est des personnages plus récents aussi. Et on se disait, c'est un peu ça l'évolution de la représentation des femmes maintenant, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus aussi facilement qualifiables de traînées, mauvaises mères, etc. C'est juste des êtres humains, en fait, qui ont plein de défauts, plein de qualités. Donc, on espère quand même que à l'avenir, on aura plus de mal à catégoriser les femmes comme ça. Et on se disait, si on devait refaire ce livre dans quelques années, en faire une nouvelle version, on espère que toutes ces catégories-là seront obsolètes et qu'on aura juste des personnages féminins complexes qu'on peut pas résumer à juste une injure sexiste. Mais c'est vrai que oui, il y a encore des progrès à faire, je pense.
Tous les portraits que vous proposez, donc à chaque fois, j'ai trouvé ça vraiment très appréciable que vous fassiez un petit point spoiler. Parce que c'est vrai que...
Ça a été débattu.
Ouais. C'est vrai.
Nous, on ne voulait pas à la base, mais c'est les éditrices qui nous ont dit que c'était quand même peut-être bien de ne pas spoiler tout le monde.
Ouais. On a un rapport aux spoilers qui est très punk.
Je pense que les gens sont un petit peu trop phobiques de tout et n'importe quoi sur les spoilers, mais c'est vrai qu'en même temps, on ne voulait pas gâcher non plus
l'expérience
de lecture, surtout sur des séries où il y a des gros mystères, en fait, et où parler de la trajectoire d'un personnage, c'était aussi révéler exactement tout ce qui lui arrive dans la série. Donc, bon,
parce qu'il y a eu des débats sur qu'est-ce qui est un spoiler, qu'est-ce qui n'en est pas, parce que par exemple l'éditrice parfois nous disait ça, il faudrait un signe spoiler, on était là non. Pour nous c'était un peu, s'il y a une mort ou s'il y a quelque chose de déterminant qui a changé le cours de la série, évidemment c'est un spoiler.
Ouais, et si ça gâche l'expérience en fait, voilà. Enfin, spoil ça veut dire gâcher, et donc pour nous en fait révéler un point de l'intrigue, mais enfin au final si le spectateur est capable d'apprécier totalement la série en sachant ça, c'est pas grave. Enfin moi je sais comment Les Sopranos se terminent, ça va pas me gâcher l'expérience de visionnage des Sopranos, mais il y a d'autres trucs où oui, ça a été des rebondissements dans Game of Thrones qui ont été très importants.
Oui, bien sûr, le Red Wedding, on va pas le spoiler, on est. Mais en même temps, enfin, nous, notre approche des spoilers, c'est un peu et c'est marrant parce qu'on s'est un peu influencé l'une l'autre dessus, parce que moi, j'ai toujours été un peu une, je cherche les spoilers sur Internet, et ça, je pense que j'ai une peur du futur en fait, et du coup, ça m'apaise. Ouais. J'aime pas les mauvaises surprises, mais il y a quelque chose, en fait, quand on sait où ça va, mais c'est pour ça que revoir une série est tout aussi plaisant, parfois même plus, parce que quand on sait où ça va, on est moins concentré sur l'appréhension d'une surprise ou de quelque chose d'un cliffhanger, d'un rebondissement, et on n'est plus à même d'apprécier les dialogues, la façon dont le scénario est construit, et la façon dont les scénaristes nous emmènent vers ce rebondissement ou des choses comme ça. Donc, après, bon, l'idéal, c'est peut-être d'être surpris la première fois et puis de pouvoir revoir la série. Donc, on ne voulait pas non plus gâcher le plaisir des gens. Donc, on a rajouté ces petits signes spoilers.
À chaque fois que je les voyais, de ça me faisait rire. C'est surtout sur les séries que je ne connaissais pas. Je me disais, ah bon, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui est assez drôle à ce sujet, c'est les séries historiques. Donc, vous allez parler à un moment donné de The Crown. Et c'est vrai que ça, pour le coup, il y a une expérience assez intéressante sur les séries historiques de se dire, mais en fait, on pourrait aller rattraper l'histoire pour savoir un peu en avance ce qui va se passer. Enfin, sur The Crown, par exemple, il y a des périodes plus lointaines où... Enfin, moi, je ne me souvenais pas du tout de ce que vivait Elisabeth II. Et ça aurait été si facile d'aller revoir et de se dire, bah, de toute façon, la série suit la suite, de lier la vraie histoire. Mais il y a plusieurs séries comme ça qui nous racontent des choses qu'on pourrait aller très vite vérifier, mais enfin, dans le réel, en fait.
Moi, je le fais tout de suite. Hein.
C'est vrai.
Ah, moi, je regarde The Crown. Deux minutes après, je suis sur Wikipédia. Hein. C'est vraiment...
Ah, moi, j'arrive à résister, là, sur...
Ah non, moi, toute la vie d'Elisabeth II...
Si, l'impératrice, enfin... Impress.
Donc, ah ouais, The Impress.
Je sais plus, voilà. Je me suis dit, non. Et après, quand je vois que la deuxième série, c'est pour l'année prochaine, de toute façon, t'auras tout oublié. Donc peut-être
mais de toute façon, ils changent beaucoup de choses. Hein. The Crown, ouais. Ils inventent des trucs. Donc, on est toujours surpris quand même. Parce que...
Oui, c'est ça. Moi, c'est l'inverse, en fait. Enfin, je m'en fiche. Donc, je dois même pas résister ou m'empêcher. Je suis là, bon, bah, je regarde The Crown. Et puis voilà. Et puis après,
On n'a pas le même rapport à la monarchie.
Puis, enfin, bah, ça, c'est encore un exemple. On sait, a priori, ce qui est arrivé à Diana. Et je pense qu'on a quand même tous apprécié. Enfin, si on regarde The Crown, l'arrivée de Diana dans la série était très impactante représentait un intérêt énorme pour les spectateurs, alors qu'on sait très bien où l'histoire va aller. Donc ça montre bien qu'on n'a pas besoin d'avoir une surprise et qu'au contraire, parfois, savoir où ça va, c'est très plaisant.
Et justement, vous avez... Donc vous parlez d'Elisabeth II dans The Crown. Vous pouvez nous raconter dans quelle catégorie vous l'avez mise et comment vous avez... Enfin, parce que je me souviens que vous avez... vous faites une distinction entre nous ne jugeons pas la reine, mais nous parlons vraiment du personnage de série. C'est intéressant ce petit détail de le notifier.
Ouais, bah en fait, c'était la seule du livre. Honnêtement, on n'avait pas envisagé de la mettre au départ dans le livre, mais on essayait aussi d'avoir des séries plus grand public et pas que nos petites séries chouchoutes que personne ne connaît. Donc, on voulait faire un équilibre entre les deux. On a inclus la reine et on l'a mise donc dans Les Coincés. parce que à chaque fois on essaie de trouver quel est le défaut qui va le plus lui être reproché ou qui va être sa tare principale entre guillemets dans la série. Et en fait beaucoup de l'arc narratif d'Elizabeth dans The Crown est lié à ça, au fait que son mari c'est celui qui est fun en fait, sa sœur voilà, elle est beaucoup plus intéressante, charismatique qu'elle, et elle c'est la coincée, et c'est ce qui lui cause beaucoup de malheur dans la série. Et puis elle est coincée littéralement aussi par l'institution, par la couronne. Mais oui, on voulait juste s'éloigner de... Enfin voilà, on s'est dit que ce serait d'assez mauvais goût de dire que la reine d'Angleterre est coincée. On ne sait pas, on ne la connaît pas. Donc on parle de ce qu'on sait, c'est-à-dire le personnage tel qu'il a été écrit par des scénaristes dans la série. Ça, on peut le juger avec une analyse de critique. Par contre, voilà, la vie de la reine, même si Marie voilà, lui, Wikipédia, donc clairement, elle sait tout. Mais on ne peut pas émettre de jugement.
Oui, mais c'est marrant sur ce chapitre parce que je pense que c'est toi qui l'avais écrit, mais tu avais mis à un moment une petite blague sur le personnage, et nos mères respectives ont relu un peu le livre. Ma mère était un peu choquée de la petite blague sur...
Ah ouais, j'avais dit sur... quoi déjà ?
Je me souviens plus, mais on a fini par l'enlever parce que moi aussi j'étais un peu genre, oh la reine, elle est morte juste au moment de la sortie du livre, donc ça aurait été un peu gênant si on avait fait une blague un peu de mauvais goût. Enfin, c'était pas de mauvais goût d'ailleurs.
Oh bah ouais, non, je sais pas ce que c'était, je suis sûre que c'était très bien.
On ne va pas pouvoir parler de toutes les anti-héroïnes, parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup trop passionnant. Est-ce que vous pourriez nous donner chacune votre anti-héroïne préférée de tous les temps ?
Waouh !
Ah, de tous les temps, waouh !
De série ou...
Oui, ah bah oui. Que,
ouais. Oui, plutôt de série.
Bah oui, de série.
C'est très compliqué, mais je pense... En fait, c'est marrant parce qu'on nous a posé plusieurs fois la question de nos préférés, par exemple, dans le livre, et je crois que je réponds jamais la même. Mais il y en a quand même, il y a, on va dire, un trio de têtes. Mais je pense que Nora Durst de The Leftovers, c'était celle qui nous a tellement motivés au début, en tout cas moi, que je la cite tout le temps. Mais celle pour laquelle j'ai le plus d'affection dans le livre, c'est Betty Draper de Mad Men. Parce que je pense aussi que Nora Durst, pour le coup, plein de gens l'admirent pour son côté un peu revêche, alors que Betty Draper, je pense qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas dans la série parce que c'est une mère très cruelle, c'est une femme cruelle avec son mari aussi à plein d'égards, elle est pourrie gâtée, elle fait des caprices, elle est très... oui, puérile en fait dans son attitude, et en même temps, moi, à chaque fois que je pense à la manière dont elle finit la série, ça me bouleverse. Et ouais, je l'adore et j'ai adoré écrire sur elle. Donc je pense que voilà, si vous avez pas vu Mad Men, je vous recommande vraiment de regarder la série. Et Betty Draper, donc qui est une mère atroce dedans, a aussi, en fait, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est qu'elle a donc ça se passe dans les années 60 et elle est totalement prisonnière du carcan de la femme au foyer idéale, qui a abandonné ses études pour se trouver un beau mari.
Et qui est passée du statut de fille à celle d'épouse, quoi.
Voilà, c'est ça, qui a toujours vécu sous l'autorité d'un homme, et qui est infantilisée, en fait, au quotidien par son mari, par la société, et donc qui n'a jamais appris à se comporter comme une adulte. Et les seules personnes qui peuvent être sujettes à, vraiment à son humeur, c'est ses enfants. C'est les seules personnes sur qui elle a du pouvoir, parce qu'elle est totalement impuissante dans sa vie de femme. Et donc elle se lâche sur ses enfants de manière totalement démesurée et atroce, mais on sent qu'elle a vraiment une rage d'être enfermée dans cette image de femme parfaite que les années 60 imposaient, et donc moi elle me touche beaucoup.
Moi, je sais pas si c'est ma préférée, parce que je pense pas que ce soit la plus anti-héroïne, mais en fait, pour ceux qui ont écouté Amy, ils savent que j'adore Rachel, de Friends. Et c'était pas évident de la mettre comme anti-héroïne à l'origine dans le livre, parce que c'est, elle est jouée par Jennifer Aniston, qui est adorée par tous les fans de la série. Elle a une coupe de cheveux qui a littéralement changé des vies. mais en fait, elle est, Anaïs, quand elle avait découvert la série, n'aimait pas Rachel. J'ai essayé d'interroger pourquoi. parce que Rachel, c'est un personnage qui correspond à un cliché qui est très présent dans la pop culture américaine, qui est le cliché de la Jewish American Princess, la princesse juive américaine, et qui est un cliché assez sexiste et un peu antisémite aussi, mais qui avait été développé à l'origine par des auteurs juifs américains comme Philip Roth, et c'était un peu une critique... Dans Goodbye Columbus, il y a un personnage qui s'appelle Brenda, et c'est, on dirait Rachel, mais dans les années 50, c'est-à-dire qu'elle a eu une rhinoplastie, elle est obsédée par le shopping, et c'est sa façon, c'est une jeune fille juive qui, d'une famille assez aisée, qui a réussi à s'intégrer, à s'assimiler dans la société américaine, et la façon dont elle s'assimile, c'est à travers le consumérisme. Et donc, il y a une critique autour de ça, et après, ça a été complètement dans toute la pop culture américaine. Si vous regardez Clueless, si vous regardez Dirty Dancing, la sœur, c'est ce personnage aussi. Après, ça a été réapproprié par des femmes juives américaines. Bah, par exemple, Clueless, c'est un peu le cas, avec beaucoup d'humour. Mais Rachel correspond vraiment à ça. Et on sent aussi, bah, par exemple, dans Goodbye Columbus, on voit très bien que le narrateur et Philip Ross, à travers le narrateur, a une jalousie envers ce personnage féminin parce qu'elle réussit à s'assimiler, alors que le narrateur lui-même n'y parvient pas vraiment et se sent toujours en décalage. Et j'ai retrouvé ça aussi dans la dynamique entre Ross et Rachel, qui à la fois il admire Rachel et il la met sur un piédestal pour sa beauté et pour son, parce que c'est un idéal féminin, mais en même temps il se sent menacé par elle dès qu'elle réussit, dès qu'elle est ambitieuse, dès qu'elle essaie d'exister par elle-même. Et en fait, prendre un personnage comme ça qui est adoré par des fans, mais en même temps qui correspond totalement à ce cliché, et le déconstruire et montrer aussi en quoi Rachel est admirable et le fait qu'elle assume sa superficialité tout en montrant qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. Et moi, c'est aussi pour ça que je l'adore, parce que j'adore faire du shopping. Hein. mais c'était... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé écrire dessus, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui était intéressant à déconstruire, je trouvais.
Parfait. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie d'Anaïs Bordage et de Marie Telling, à l'occasion de la parution de leur ouvrage « Petit éloge des anti-héroïnes de série » aux éditions Les Pérégrines. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
Hey marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.